Catherine Garrigue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la gestion action européenne chez Alliance Global Investors à Paris. On va parler avec vous, peut-être pour commencer, d'un bilan de cette année 2014 pour les actions européennes. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça a été une année assez compliquée quand même. Je dirais qu'il y a eu plusieurs périodes.
Une année compliquée en effet. En début d'année, on misait vraiment sur une reprise économique. Il y avait des signaux quand même qui abondaient dans ce sens. Et puis en fait, tout a changé à partir de l'été où on s'est rendu compte qu'on avait totalement surestimé le potentiel de sortie de crise. Il faut bien voir que, et même aux États-Unis, mais dans la zone euro en particulier, la sortie de crise est très très en deçà de ce qu'on a eu l'habitude de voir dans les cycles précédents. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le consensus sur lequel on repose et sur lequel on travaille n'a cessé de réviser à la baisse. Donc en fait, si on fait un bilan, c'est même pas sur le bilan 2014, c'est finalement sur les 3-4 dernières années, on n'a pas eu de croissance du tout des profits des entreprises. Et donc c'est quand même un moteur qui manque évidemment pour les marchés actions, ça c'est clair.
Alors on peut dire aussi que bien entendu les banques centrales ont été au cœur de ces évolutions avec des attentes de la part des investisseurs, ce côté pilotage par les banques centrales des marchés. Est-ce que ça a pu perturber, alors peut-être dans le bon sens certaines fois, mais aussi dans le mauvais sens?
Bon, je crois qu'il y a deux conséquences à cette politique très expansionniste de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est d'une part que les taux ont violemment chuté. Et donc on a du mal à faire maintenant un lien entre la prime de risque qu'on doit demander aux actions dans un univers où les taux sont très très bas. Finalement, on a du mal à justifier une valorisation normale des marchés actions. Tout ça pour dire qu'il pourrait être 10% plus cher ou 10% moins cher. Toute chose égale par ailleurs, ça ne choquerait personne. Voilà. Donc ça, c'est un fait. La deuxième conséquence, c'est que comme les taux sont très très bas, partout, sur la dette souveraine, sur le crédit, sur le haut rendement, sur les convertibles, il n'y en a plus non plus, aujourd'hui, les investisseurs, par défaut, viennent sur les marchés actions pour capter du rendement. Et donc, on a eu une année justement très atypique où ce qui a monté, c'était les valeurs à haut rendement. Donc, on a eu le pétrole jusqu'au mois de septembre, évidemment. On a eu les télécoms, on a eu les utilities, enfin on a eu toute une série d'achats vraiment pour capter du rendement. Voilà, donc une gestion assez difficile.
Alors le pétrole, justement, vous en parlez, ça n'a été pas la moindre des surprises de cette année 2014, c'est-à-dire cette chute spectaculaire en quelques mois. Là, il y a eu un mouvement particulièrement violent et il y a encore beaucoup d'interrogations effectivement sur ce qui s'est passé.
Bon, alors, je pense que le consensus sur ce, même si on ne l'a pas anticipé, mais aujourd'hui, le consensus explicatif, c'est que, bon, on est quand même dans une année où l'explosion de la production de shale gas aux États-Unis atteint des sommets. Les États-Unis produisent quasiment autant que l'Arabie Saoudite par jour. Donc, voilà. Et puis, deuxièmement, il y a peut-être aussi la volonté de l'Arabie Saoudite, quand même, de garder un petit peu la main sur sa rente à long terme, et donc de faire baisser un petit peu le prix du baril, en tout cas pour qu'il ne soit pas trop haut, parce qu'un prix trop élevé justifie d'aller chercher du pétrole en offshore profond ou les gaz de schiste au Canada, etc. Donc voilà, il y a un mélange qui fait que il y a eu plus d'offres. Et parallèlement, il y a eu moins de demandes, en fait. Il y a quand même un ralentissement de l'économie chinoise, notamment au niveau de la production. La production chinoise est très, très flatte, en fait, depuis 2 ans. Donc, la Chine n'augmente plus sa consommation de pétrole. Voilà. Donc, on a une demande qui s'est assagie, qui stagne, et parallèlement, une offre, pour des raisons politiques ou des raisons de rupture technologique aux États-Unis, fait que l'offre de pétrole a beaucoup monté. Voilà. Donc, on ne l'avait pas prévu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on comprend bien ce qui s'est passé. Et la conséquence, c'est qu'on se dit que ça peut durer, parce que ces deux tendances, on ne les voit pas se retourner très vite.
Alors, en Europe, on peut dire qu'on a vu quelques améliorations du côté de pays qui étaient qui avaient souffert, comme l'Espagne, comme Portugal. On a vu un certain nombre d'améliorations. On a encore pas mal de questions sur l'Italie. Est-ce que globalement, parce qu'il y a eu aussi, bien sûr, le cas allemand qui n'était pas attendu par les investisseurs, est-ce que ça s'améliore ou est-ce que là, on est entre deux, périodes toujours très compliquées en Europe?
Les pays qui ont fait beaucoup d'efforts, donc vous avez raison, l'Irlande, le Portugal, même la Grèce, l'Espagne surtout, bon, vont mieux, mais on a l'impression que le momentum ne s'accélère plus. Bon. Les pays qui n'ont pas fait d'efforts, notamment l'Italie et l'Espagne, qui n'ont pas fait, n'ont pas mis en place
La France, vous voulez
encore,
dire la France, oui,
la
la
France
France,
et
oui.
l'Italie, oui, donc n'ont pas encore mis en place des réformes structurelles, notamment sur les systèmes de retraite, d'une part, et d'autre part, le régime enfin, le droit du travail. Bon. Donc, ces deux pays sont en récession. Hein. On est à plus quelque chose. On est en troisième année de récession en Italie. Bon, voilà. On attend vraiment des mesures concrètes et on ne les voit pas vraiment encore suffisamment fortes. Et l'Allemagne, c'est vrai que ça peut être un peu le talon d'Achille de l'Europe, hein, parce que c'est une machine à produire et à exporter. Elle a une balance extérieure de 7% de son PIB. C'est absolument énorme. Mais le revers de la médaille, c'est qu'elle dépend énormément des marchés extérieurs. Et donc, il y a beaucoup de marchés extérieurs qui se fatiguent un petit peu. Le Brésil est en récession. L'Inde va pas très bien. La Russie va très mal. Et la Chine, on le disait tout à l'heure, en termes de production industrielle, stagne aussi. Donc c'est ça aussi qui a fait cette rupture dans la perception de la reprise économique qu'on a eue en septembre, c'est qu'on s'est aperçu que même l'Allemagne commençait à avoir un peu des problèmes. Voilà. Donc on va rester dans une situation un petit peu difficile. Hein.
Alors les entreprises, elles, on pourrait dire, elles ont quand même fait des résultats, on pourrait dire, malgré cet environnement pas forcément favorable. Bon, il y a eu de l'impact, par exemple, du ralentissement chinois sur certaines entreprises, notamment dans les luxes ou vins et spiritueux, mais globalement, quand on regarde les résultats des entreprises européennes, elles s'en sortent pas trop mal.
Alors bon, le consensus 2014, encore une fois, on va atterrir autour de 5, hein. C'est pas une grosse croissance après 3 ans de stagnation, hein, je le rappelle. Bon, pour 2015, on est un peu plus optimiste. Alors, il y a aussi deux éléments quand même qui se sont produits. Donc, on revient sur la baisse du pétrole. C'est quand même un choc positif qui peut être majeur pour l'Europe. Hein. Donc, pour certaines industries, baisse des matières premières. Ça va être aussi un choc positif pour le consommateur, qui en a bien besoin. Voilà, donc quand on écoute les économistes, ils anticipent que ça puisse provoquer un choc de l'ordre de 0,5 sur le PNB de la zone euro. C'est quand même pas rien, hein. Passer de 0,5 à 1, c'est pas rien. Bon. Et le deuxième choc, c'est la baisse de l'euro, puisqu'on parle de plus en plus d'un quantitative easing à l'américaine, c'est-à-dire une banque centrale européenne qui se mettrait à acheter directement la dette souveraine, non pas pour faire baisser les taux puisqu'ils sont déjà très bas, mais pour enfler son bilan, créer de la masse monétaire. Et donc là, le but, c'est de faire aussi baisser l'euro. Donc si on a un dollar qui monte, là on sait qu'il y a quand même des impacts assez positifs globalement sur les entreprises européennes. Donc tout ça pour dire, et pour finir un peu sur une note un peu plus optimiste, c'est que aujourd'hui on a un consensus qui est quand même très négatif, qui est très perturbé par tout ce qu'on entend sur la macroéconomie. Et on peut avoir des bonnes surprises parce que le dollar va nous tirer un peu à la hausse, parce que le baril va peut-être nous alléger nos charges. Voilà, on peut avoir une année un petit peu plus optimiste.
C'est pour vous les choix d'investissement principaux pour les prochains mois?
Alors, je crois que le dividende, ça reste assez central. Donc, je préfère les dividendes, alors assez diversifiés, c'est-à-dire que pas trop dans le pétrole en ce moment. Mais bon, dans des secteurs comme les opérateurs télécoms, qui en plus se consolident, on a l'impression qu'on sort de la déflation des chiffres d'affaires hein, dans le mobile et dans le fixe. Donc ça, c'est un bon secteur. Dans les services aux collectivités aussi, on a l'impression que ça bouge un peu. Voilà, donc je pense que le dividende, ça reste un thème assez important. Ensuite, des secteurs dollars, donc l'aéronautique, un peu de luxe. Il y a du stock picking à faire hein, dans la technologie, des valeurs comme Sodexo aussi. Voilà. Et puis, alors après, jouer la baisse du prix du baril, ça c'est beaucoup plus difficile. C'est pas simple, mais ça va globalement, je dirais, profiter à la macroéconomie.
Merci Catherine Garrigue d'avoir été avec nous.
Merci.